Décryptage.
Anne Cantner.
Grand dialogue national au Cameroun. Pour la première fois depuis le début du conflit qui touche les régions anglophones du pays, le gouvernement propose de discuter avec les différentes parties prenantes. Les débats ont commencé hier et ils doivent durer toute la semaine.
La gravité de la situation qui prévaut dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doit nous interpeller et nous préoccuper, mais surtout nous astreindre tous à une obligation de résultat.
Le Premier ministre camerounais à l'ouverture des débats hier, il appelle donc à des résultats, mais l'issue de cette semaine de discussion reste extrêmement incertaine. D'une part parce que les groupes armés qui réclament la sécession des deux régions anglophones ne sont pas là, et d'autre part parce que le gouvernement n'a pas du tout l'intention d'évoquer la mise en place d'un État fédéral, comme le demandent pourtant de nombreux anglophones. Alors que peut-on attendre de ce dialogue? C'est notre question du jour. Bienvenue dans Décryptage. Pour mieux comprendre cette crise, ce conflit qui secoue les régions de l'ouest du Cameroun depuis maintenant presque 3 ans, nous recevons ce soir Marie-Emmanuelle Pomerol. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Avant d'évoquer l'organisation de ce dialogue et ses chances de succès, j'aimerais que l'on revienne sur les différentes étapes de cette crise anglophone, que l'on appelle d'ailleurs un peu pudiquement crise, alors qu'en fait aujourd'hui il s'agit d'un conflit armé entre d'un côté les militaires camerounais et de l'autre plusieurs groupes armés qui souhaitent faire sécession. Mais lorsque tout cela a commencé à la fin de l'année 2016, il s'agissait en fait d'un mouvement social.
Tout à fait. À partir d'octobre 2016, des avocats et des enseignants de la partie anglophone, qui est divisée en deux régions, Nord-Ouest et Sud-Ouest, ont manifesté, ont revendiqué auprès de leur ministère pour que soient mieux reconnues les spécificités du système judiciaire anglophone et du système d'enseignement anglophone. Donc ils l'ont fait de manière pacifique à travers des lettres au ministre, des manifestations, et ils se sont progressivement organisés autour d'une société civile anglophone.
Et le gouvernement à ce moment-là a choisi de répondre avec la méthode forte, puisque assez rapidement les meneurs de la contestation ont été arrêtés. Internet a été complètement coupé dans les deux régions anglophones pendant 3 mois, donc la méthode qui a été choisie était plutôt répressive.
Alors il y a eu quelques concessions en décembre 2016, la mise en place de certaines structures autour du bilinguisme, etc. Mais globalement, les organisations de la revendication ont été réprimées, ainsi que les leaders.
Alors ce n'est pas la première fois que des revendications de ce type émergeaient dans ces deux régions de l'ouest du Cameroun, donc à majorité anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest. On va faire un peu d'histoire, Marie-Emmanuelle Pomerol. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment s'est construit le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui et pourquoi ces deux régions ont une place particulière?
Alors en fait, le Cameroun, avec un K, était une colonie allemande. Et suite à la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale, ce territoire a été divisé entre deux autres puissances colonisatrices, la France et la Grande-Bretagne. Et donc, elles étaient à la fois sous mandat de la Société des Nations Unies, la SDN, puis ensuite en fait de l'ONU, mais confiées à la France d'un côté pour sa partie orientale et à la Grande-Bretagne, et intégrée dans le grand ensemble nigérian, qui était une colonie britannique, pour cette partie ouest, aujourd'hui dite zone anglophone. Il y a eu ensuite l'indépendance de la partie francophone en 1960, et puis donc le rattachement d'une partie de cette zone anglophone après un référendum en 1961, durant lequel les populations de la zone ont demandé leur rattachement. Ils avaient le choix à être rattachés au Nigeria ou au Cameroun. Ils ont choisi le rattachement au Cameroun, mais ce, dans un système qui était à l'époque fédéral.
Donc ça a duré pendant 10 ans, un tout petit peu plus. Et puis, à partir de 1972, le pays a été unifié.
Voilà, le système qui était fédéral, c'est-à-dire qu'on avait deux assemblées différentes, deux premiers ministres, une forme d'autonomie en fait, hein, de chacune des parties, s'est estompée au profit d'une république unitaire en 72 et encore davantage en 95. 1964, si ma mémoire est bonne, ce qu'on appelait alors la République unie du Cameroun est devenue la République du Cameroun. Donc on mettait totalement de côté le passé fédéral.
Alors, tout au long de ces années, de ces processus que vous venez de décrire, certaines revendications séparatistes, ou en tout cas pour un retour au fédéralisme, ont été émaillées au fur et à mesure donc des années. Et ce sentiment de marginalisation a donc refait surface à la fin de l'année 2016. La réponse des autorités n'a pas vraiment apaisé la situation, en tout cas pour beaucoup d'habitants de ces régions anglophones. La réaction du pouvoir a au contraire attisé les rancœurs.
La pire chose que le gouvernement de ce pays ait faite est de transformer une affaire politique en une lutte contre de prétendus terroristes. Les Camerounais devraient avoir le droit d'exprimer leurs opinions. Exprimer ces opinions ne doit pas conduire à la répression militaire. Tu ne peux pas être sur ton propre territoire et ne pas avoir la parole. Manifester dans la rue est complètement interdit au Cameroun. C'est complètement interdit d'exprimer ses opinions. À chaque fois, on t'oppose qu'il faut pour cela militer dans un parti politique. Le sentiment d'appartenance au Cameroun, pour ce qui me concerne, est mort. Quand vous voyez vos frères aller vivre dans la brousse, quand vous voyez vos sœurs traîner dans la boue parce qu'elles ont revendiqué leurs droits, comment se sentir encore Camerounais ?
Le sentiment de John, c'est un jeune chauffeur de taxi de la ville de Boya, dans la région donc du sud-ouest, à majorité anglophone. Marie-Emmanuelle Pomerol, en arrêtant les leaders de la contestation sociale au début de l'année 2017, le gouvernement camerounais n'a-t-il pas indirectement aggravé la crise ?
Il s'est privé en effet d'interlocuteurs qui étaient jusque-là relativement modérés dans leurs demandes. Ils avaient des revendications, on va dire, sectorielles, et très vite la revendication pour le fédéralisme et puis ensuite pour la sécession s'est développée du fait de cette répression. Alors ça veut pas dire que cet imaginaire de la fédération, il est là, vous l'avez dit, il y a eu des mobilisations depuis les années 80, donc ça reste en arrière-fond, mais effectivement ça a été attisé par cette répression de la part du gouvernement.
Et ce que vous disiez, c'est effectivement un point qui avait été soulevé par de nombreuses ONG au moment des arrestations au début de l'année 2017, c'était de dire, si ces personnes-là sont en prison, les seules voix qui vont rester audibles seront les plus radicales en quelque sorte.
Oui, alors à l'époque, ils n'étaient même pas encore tout à fait présents, hein, les plus radicaux, qu'on a trouvés plutôt dans la diaspora, se sont manifestés à ce moment-là. Ils n'étaient pas du tout présents au début de la mobilisation, en tout cas pas autant que les avocats ou les enseignants qu'on pouvait rencontrer à Bamenda à ce moment-là.
Alors à partir de l'année 2017, donc la situation est devenue un conflit armé. Aujourd'hui, International Crisis Group estime que les violences ont tué environ 3000 personnes, entraîné le déplacement forcé de 500 000 habitants, plus 40 000 autres qui, eux, auraient fui au Nigeria voisin. À quoi ressemble la vie quotidienne dans ces deux régions aujourd'hui après 3 années de conflit ?
Alors c'est assez difficile à dire parce qu'on a finalement très peu de témoignages à la fois de journalistes camerounais ou de journalistes étrangers. On a des témoignages directs, hein, mais finalement très peu de choses filtrent parce que la zone est quand même militarisée. C'est une zone très difficile d'accès. À quoi elle ressemble, si je donne l'exemple d'un village dont j'ai des nouvelles, ce sont des jeunes, par exemple, les Amba Boys, c'est ces sécessionnistes qui ont pris le pouvoir, qui ont chassé le chef traditionnel, entre guillemets, et qui ont pris le pouvoir, qui lèvent l'impôt, qui font des barrages, etc. Et donc là, on a une vraie transformation du tissu social dans ces régions. Je crois qu'on ne mesure pas encore complètement.
Ces fameux Amba Boys, comme on les surnomme, qui sont donc des rebelles sécessionnistes, ont aussi beaucoup fait pression pour fermer les écoles, par exemple. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez si certaines écoles sont ouvertes ? Il y avait eu notamment de nouveau une forte pression juste avant la rentrée scolaire de cette année. Est-ce que vous savez si certaines écoles sont ouvertes actuellement ?
Alors, j'ai entendu le chiffre de 80% qui était fermé. Et donc, il faut bien avoir en tête que ça fait 3 ans que les jeunes de cette région ne vont plus à l'école. Vous avez bien dit, 500 000 personnes sont parties, hein, de de ces zones, c'est-à-dire à peu près 10%, et donc il y a beaucoup de jeunes, par exemple à Douala, hein, dans les lycées bilingues, puisque le pays est bilingue et il est vraiment bilingue, on trouve beaucoup de jeunes et une congestion incroyable de ces écoles. Donc ça a aussi des effets, bien sûr, dans les zones anglophones où sont réfugiés francophones où sont réfugiés les anglophones. Mais c'est un vrai problème et ça montre bien combien les civils sont pris dans cette logique. Hein, c'est ce que tout le monde fait remarquer, que les civils sont vraiment pris en étau entre la violence de l'armée, mais aussi la violence et les actions des sécessionnistes.
Les civils subissent cette violence effectivement en premier lieu, non seulement ses conséquences, mais les deux camps, les militaires camerounais et les rebelles sécessionnistes, ont été accusés par de nombreuses ONG d'avoir commis des exactions. Et donc, pour la première fois depuis le début du conflit, le président camerounais a évoqué publiquement la situation. C'était il y a 3 semaines, lors d'un discours surprise à la télévision.
J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Paul Biya a bien précisé que ce dialogue se déroulerait dans le cadre de la Constitution. Donc, a priori, cela signifie que le président exclut d'emblée tout retour à un État fédéral, Marie-Emmanuelle Pomerol.
Alors, c'est effectivement ce que pointent du doigt ceux qui n'ont pas voulu participer ou qui se retirent petit à petit de ce dialogue national. C'est le fait qu'on ne touchera pas à l'une des revendications majeures d'une partie des anglophones. Il faut bien voir que les revendications ne sont pas du tout unifiées. Certains demandent donc la sécession, d'autres le fédéralisme, peut-être un peu moins nombreux sont ceux qui aimeraient une décentralisation plus poussée qu'elle ne l'est, puisqu'elle est vraiment très minime aujourd'hui.
Qui est l'une des propositions qui a été faite par le gouvernement, de mettre en place une loi de décentralisation qui date de 1996 et qui n'a pour l'instant pas été vraiment scrupuleusement appliquée.
Pas scrupuleusement du tout même. Donc en fait, on en vient à proposer des solutions qui sont présentes, en fait, qui sont le droit depuis 23 ans et qui n'ont pas encore été mises en place. C'est pourquoi ceux qui réclament davantage d'autonomie, soit fédéralisme, sans parler du sécessionnisme, sont un petit peu réticents par rapport à des solutions qu'ils trouvent limitées.
D'après les informations que vous avez, c'est une proposition qui est insuffisante ou elle pourrait quand même être entendue et permettre de tempérer un peu ?
Le problème, c'est que les interlocuteurs présents au Grand Dialogue National ne sont pas forcément entendus par tous. C'est le problème de l'inclusivité, en fait, de ce dialogue national et de sa représentativité. C'est qu'il y a des figures très importantes et très écoutées. Je pense au cardinal Toumi, qui a cherché depuis le début à mettre les gens autour de la table. Mais, par exemple, Akere Mouna, un ancien candidat à la présidentielle anglophone, vient de se retirer du dialogue. Et les sécessionnistes, eux, ne sont pas inclus. Donc, même si certains acceptaient ces solutions, il n'est pas sûr que ça ait des effets sur les revendications des autres.
Oui, parce que vous parliez, par exemple, du cardinal Toumi, qui est une personnalité importante. Cela fait des mois, même plus, qu'il essaie de mettre en place, enfin qu'il a créé une conférence générale anglophone, qu'il essaye de réunir de nombreuses voix anglophones pour essayer de trouver des solutions. Il participe au dialogue, mais pour l'instant, il n'a pas pu organiser cette fameuse réunion pour réunir différents profils anglophones.
Voilà, c'est un petit peu le regret qu'on peut avoir quand on voit ce grand dialogue national, c'est que les anglophones demandaient à pouvoir se réunir entre eux pour se mettre d'accord, parce qu'on l'a dit, les aspirations sont très diverses, les lieux aussi d'où parlent ces anglophones sont très divers, hein. Certains ne sont pas au Cameroun, d'autres y sont, et donc cette possibilité leur a été refusée, hein, de se réunir pour parler entre eux, et l'étape suivante a tout de suite été mise en place, celle du dialogue national, ce qui noie un petit peu la question anglophone dans un cadre plus large, et ce qui surtout n'a pas permis aux anglophones de se mettre d'accord et d'arriver unis à la table des négociations.
Donc un risque pour les anglophones quelle est la position adoptée, en tout cas une impossibilité à discuter en amont et éventuellement proposer une solution qui rassemble différents anglophones. Vous parliez aussi du risque de que ces revendications soient diluées parmi d'autres. C'est effectivement quelque chose qui a été évoqué ces derniers jours. Pour préparer ce dialogue, le Premier ministre a mené beaucoup de consultations, et pas uniquement avec des anglophones, et beaucoup aujourd'hui redoutent que ce dialogue finalement ne serve à régler un certain nombre de problèmes, mais qui concerne aussi beaucoup d'autres régions, et notamment des régions francophones du Cameroun.
Alors là, il y a une petite contradiction, une contradiction dans cette remarque, c'est-à-dire que à la fois effectivement les anglophones ont des revendications très spécifiques liées à leur histoire, liées aussi à leur capacité de mobilisation depuis plusieurs années, et donc effectivement ils doivent être entendus en tant qu'anglophones. Mais ce que font remarquer aussi beaucoup d'analystes, c'est que cette crise, elle est révélatrice aussi d'un malaise qui est partagé par d'autres citoyens camerounais, sur la liberté d'expression, sur le rapport à l'État, sur la capacité de développement, etc. Donc effectivement, il serait aussi intéressant d'entendre d'autres citoyens camerounais sur leurs revendications, parce qu'il y a finalement peu d'espace dans lesquels ils peuvent être entendus, mais le risque, voilà, c'est cette dilution. Donc on est dans un format qui risque de, pour l'instant, de ne plaire à personne.
Alors ce dialogue, en tout cas, se déroule à des dates qui ne sont pas complètement anodines pour ces deux régions anglophones, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. C'est la date anniversaire de l'unification du Cameroun dont nous parlions tout à l'heure, en 1961. Et c'est aussi la date qu'avaient choisi les sécessionnistes pour déclarer l'indépendance de l'Ambazonie. C'est le nom donné à ce qu'ils voudraient voir devenir un État donc indépendant. Est-ce que, en choisissant ces dates, les autorités font déjà passer un message ou pas vraiment?
Alors, il y a effectivement souvent de la part du gouvernement des jeux avec les grandes dates de l'histoire du pays. Donc, ce serait pas étonnant que cette fois-ci ce soit encore le cas. Je pense à l'organisation d'une grande manifestation de soutien aux forces armées qui se battent dans l'extrême nord et qui avait lieu le jour des commémorations d'un massacre qui avait eu lieu en 2008. Donc, c'est quelque chose d'assez récurrent dans la stratégie politique, et fort probable que ce soit le cas cette fois-ci.
Toujours à propos des dates, lorsque le président camerounais a annoncé la tenue de ce dialogue, c'était le 10 septembre, juste avant l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. On sait que ce dialogue est réclamé depuis longtemps par l'ONU, par les États-Unis, par l'Union européenne. Est-ce qu'il s'adressait aux Camerounais, à la communauté internationale ou aux deux ?
Je pense qu'il s'adressait aux deux. Il a réussi à couper l'herbe sous le pied à un certain nombre de processus de médiation qui avaient lieu à l'extérieur.
Il a notamment été... la Suisse qui avait commencé à discuter avec certaines des parties prenantes.
Voilà. Et le gouvernement a été assez habile à reprendre en main, en fait, hein, une négociation qui peut-être lui échappait. Maintenant, elle a lieu au Cameroun, sans médiateur international.
Ce qui était pourtant ce que réclamaient les leaders des groupes armés, ceux qui sont en exil.
Voilà. Donc ici, on a vraiment une nationalisation du dialogue national, et les partenaires internationaux ne peuvent qu'approuver, puisque c'est ce qu'ils demandaient depuis plusieurs mois.
Merci beaucoup Marie-Emmanuelle Pomerol d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Décryptage réalisé ce soir par Hélène Avril et préparé par Éléonore Krenik et Patrick Adam. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne soirée et à demain.